C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec Mickaël Jérémiaz, quadruple médaillé paralympique de tennis fauteuil. On évoquera avec lui les Jeux de Tokyo, bien sûr, mais aussi plus largement l'inclusion des personnes handicapées. À 19h, le journal d'Hélène Filly. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, la situation sanitaire aux Antilles. Alors que l'épidémie de Covid continue de flamber en Martinique et en Guadeloupe, on posera la question, pourquoi un tel désastre? Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, le sort inquiétant d'une vingtaine d'enfants habitants de Rennes, d'origine afghane, est parti en vacances à Kaboul pour l'été et toujours piégé sur place. Nous vous racontons leur histoire dans un instant. Après l'éducation, la sécurité, le logement, Emmanuel Macron attendu sur la biodiversité. Le chef de l'État terminait sa visite à Marseille ce soir. Il s'est prononcé ce matin sur une meilleure protection de la Méditerranée, mais les ONG restent sceptiques. On entendra à suivre aussi la controverse autour de l'allocation de rentrée scolaire qui tourne à la polémique gouvernementale. Les associations Baraka City et le CCIF dissoutes pour appel à la haine, elles faisaient appel aujourd'hui devant le Conseil d'État. La toile déchirée de Banksy revenue à nouveau aux enchères, revendue à nouveau aux enchères. Et pour finir, du catch sur les planches à la cartoucherie de Vincennes, c'est du théâtre et c'est le choix du service culture d'Inter.
France Inter. Elles étaient parties à Kaboul pour rendre visite à leurs proches. Elles sont désormais bloquées là-bas, en Afghanistan.
Oui, on vous parle ce soir de cette histoire de plusieurs familles franco-afghanes, 6 ou 7 familles qui vivaient donc jusqu'ici dans la ville de Rennes et dont le sort inquiète les autorités. Au total, 45 personnes parties en vacances et aujourd'hui bloquées à Kaboul depuis la reprise de la ville par les talibans et la fin du pont aérien. Elles n'ont pas pu être rapatriées. Bonsoir Mélanie Juvet.
Bonsoir.
Parmi ces familles, 24 enfants, 24 élèves qui n'ont pas pu faire leur rentrée à l'école hier.
Oui Sébastien, des enfants toujours bloqués sur place avec parfois leur mère ou leurs deux parents. Shamadi, lui, a pu rentrer avant la prise de pouvoir des talibans à Kaboul et il est depuis en contact permanent avec eux.
Ils ne veulent pas sortir ou ils ne peuvent pas sortir par peur. Ils sont terrifiés, surtout en fait les filles. Les filles qui ont un certain âge, 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont sur les réseaux sociaux, qui savent comment ça se passe avec les talibans en Afghanistan et comment ça se passe avec les filles. Donc, qui sont très, très inquiets.
Un propos recueilli par nos confrères de France Bleu Armorique. Inquiétude aussi de Nathalie Jacquet, directrice de l'école Saint-Armel à Rennes, où deux de ses enfants étaient scolarisés.
C'est difficile parce que voilà, chacun a sa place et le moment de la rentrée c'est un moment important. L'éducation c'est primordial, on le sait. Puis vraiment on pense fort à eux et on voudrait vraiment que les choses bougent très vite parce que je pense qu'il y a vraiment une situation d'urgence pour la vie de ces enfants et de ces familles.
RESF, le réseau Éducation sans frontières, suit aussi le dossier de ces enfants de près. Carole Bohan, membre de l'antenne en Ille-et-Vilaine, s'inquiète maintenant que les familles aient recours à des passeurs pour sortir d'Afghanistan.
Elles n'ont pas d'autre choix pour l'instant que d'emprunter des voies illégales si elles veulent quitter rapidement l'Afghanistan. On n'a pas de moyens légaux, ni juridiques, ni autres, à part la mobilisation, mais c'est un peu dérisoire.
Et de son côté, le Quai d'Orsay, Sébastien, affirme que chaque signalement de Français, d'Afghans menacés ou de résidents est pris en compte et indique que pour l'heure, aucune garantie d'évacuation n'est possible.
Mélanie Juvet, merci. Ajoutons ce nouveau retard pris par les talibans pour former leur gouvernement à Kaboul. Il devait être annoncé aujourd'hui, mais toujours pas de fumée blanche. Aucune femme ne devrait être ministre. En revanche, c'est l'actuel leader politique du mouvement, le fond du mouvement fondamentaliste, le Mollah Baradar, qui devrait diriger le nouvel exécutif à Kaboul. Information de nos confrères de Reuters.
L'autre actualité du jour, Sébastien, c'est la biodiversité au menu du dernier jour de la visite du président à Marseille.
Emmanuel Macron qui doit inaugurer le lancement du Congrès mondial pour la nature, dernier grand volet de son déplacement de 3 jours dans la cité phocéenne. Le chef de l'État très attendu par les 4000 scientifiques, militants et ONG présents sur place pour éviter la disparition de près de 500 000 espèces d'animaux et de végétaux dans les prochaines années. On y reviendra dans le journal de 19h d'Hélène Filly. En attendant ses engagements sur la biodiversité, le président a déjà pris la parole ce matin sur la question des océans, eux aussi menacé par la pollution et le réchauffement climatique. C'était juste après une sortie dans les Calanques de Marseille aux côtés de son ancien ministre Nicolas Hulot. On écoute le chef de l'État.
En Méditerranée, on doit aller beaucoup plus loin. C'est une multiplication par 25 des aires maritimes à très forte protection. Ces aires maritimes naturelles aujourd'hui à très forte protection, c'est un choix qui est important parce que ça veut dire que ce sont des espaces où on ne fait plus de pêche, etc. On a négocié tous ces derniers mois et je veux remercier en particulier nos pêcheurs parce qu'on a trouvé la bonne organisation. 5%, ça ne va pas révolutionné, mais c'est un vrai choix d'organisation qu'on a fait avec eux, avec toutes les parties prenantes. Mais nous allons pouvoir multiplier par 25 ces aires maritimes très fortement protégées en Méditerranée, ce qui crédibilise notre engagement.
Voilà, la multiplication par 25 des aires maritimes à très forte protection en Méditerranée, promesse présidentielle. Ce dernier point répond à une exigence des scientifiques. Le problème, c'est qu'on part de très loin là-dessus, disent les ONG. Aujourd'hui, à part la réserve de Porquerolles, une partie de la côte bleue près de Marseille et la réserve de Banyuls, la Méditerranée est très mal protégée. C'est un mini confetti qui devient un tout petit peu plus grand. On passe de 0,2% à 5% de la surface de la Méditerranée qui sera sous protection forte. Écoutez la réaction de Pierre Canet du WWF.
En Méditerranée, on est dans un espace qui est en burn-out, soumis à de multiples pressions. Trafic maritime, surpêche, pollution plastique. Aujourd'hui, 0,23% de la façade méditerranéenne française est protégée, protection forte. Sur les 37 sites de protection, il va donc falloir les étendre, renforcer les moyens pour faire en sorte que cette protection soit bel et bien forte. Car la question, c'est celle de la qualité et des moyens qui seront alloués, du dialogue qui sera organisé avec les pêcheurs. Là, nous n'avons pas encore de garantie sur le fait que ça soit une bonne protection forte.
Pierre Canet du WWF avec Célia Kiret. La polémique sur l'allocation de rentrée scolaire rebondit encore et vire même au couac gouvernemental avec Olivier Véran qui n'hésite pas à prendre le contre-pied de son collègue de l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, on s'en souvient, a laissé entendre que certaines familles utilisaient cet argent pour acheter des écrans plats. La réponse du ministre de la Santé sur France Bleu.
Peut-être qu'il y a une partie de cet argent de l'allocation rentrée scolaire qui ne sert pas qu'à acheter du matériel scolaire pour les enfants. Et alors ? Je ne suis pas choqué que des familles puissent utiliser une partie de cette allocation pour payer une facture d'électricité qui traînait, pour prendre un peu plus d'essence pour partir en week-end, ou pour décider de faire le plein d'un certain nombre d'aliments qui vont pouvoir agrémenter les repas de famille, qui sont généralement des repas qui sont pas festifs au quotidien, et c'est un euphémisme que de le dire. Donc je considère que cette allocation, elle est utile dans sa globalité aux familles précaires qui la perçoivent, et je suis très attaché à ce système d'allocation.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avec Wendy Bouchard au chapitre sanitaire. La Nouvelle-Calédonie fait tout pour éviter de voir débarquer le Covid sur son territoire, encore épargné jusque-là. Fermeture des frontières jusqu'au 31 décembre. Et depuis aujourd'hui, vaccination obligatoire pour toutes les personnes majeures. Seuls 30% des 270 000 habitants de l'archipel sont à ce jour entièrement vaccinés.
Voilà, je vous rappelle que tout à l'heure au téléphone sonne, on parlera du Covid en Outre-mer et plus précisément aux Antilles. Vous pouvez déjà appeler le 01 45 24 7000. On en vient maintenant à cette audience administrative autour de deux associations accusées d'incitation à la haine et de propagande islamiste.
Baraka City et le CCIF poursuivis par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty, notamment pour les messages publiés sur le site de Baraka City contre Charlie Hebdo en particulier. Baraka City et le collectif contre l'islamophobie en France avaient été dissoutes par les autorités en novembre et décembre dernier, décision confirmée ensuite par le Conseil d'État, mais les ONG ont fait appel, l'audience avait lieu aujourd'hui. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Et le rapporteur du Conseil d'État propose de confirmer les décrets du gouvernement et donc la dissolution des associations.
Oui, cette fois c'était un examen sur le fond par le Conseil d'État des recours engagés par les deux associations dissoutes par le ministère de l'Intérieur. Et effectivement, cet après-midi, son rapporteur s'est prononcé pour la validation des décrets de dissolution de Gérald Darmanin, même s'il demande le retrait de l'un des points les plus sensibles, à savoir que les associations incitaient à commettre des actes de terrorisme. Reste l'autre versant de la polémique, d'abord les messages incitant à la haine, postés sur le compte Facebook de l'association Baraka City notamment, sans aucune modération, jamais effacée. Et puis l'attitude du dirigeant de Baraka City, Idriss Siamedi, que conteste l'avocat des deux associations, Stéphane Guezguez.
On a notamment dissous cette association parce qu'on reproche à Idriss Siamedi d'avoir harcelé Zineb Razoui, une journaliste de Charlie Hebdo. Or, il faut le savoir, il a été relaxé pour ces faits-là. Évidemment, les conclusions du rapporteur public, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'engage pas nécessairement le Conseil d'État. Ce n'est pas parce que le rapporteur public donne cet avis que le Conseil d'État est obligé de suivre. Le rapporteur, il laisse croire qu'effectivement, il y aurait une obligation exorbitante qui pèserait sur les associations qui devraient, dans une démarche omnisciente, tout savoir de ce qui se dit sur les réseaux sociaux et être capable de réagir à la seconde près où les commentaires sont publiés. payer, et ça c'est problématique.
La décision du Conseil d'État sera rendue sous 2 à 3 semaines.
Emmanuel Leclerc, merci. Autre audience, le procès très mouvementé de Moufid Bouchibi, l'un des plus gros trafiquants de drogue français, interpellé à Dubaï en mars. Le procureur a requis 18 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. L'actualité judiciaire et la fin des fouilles menées dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Une fois encore, pas de résultat. Aucune autre opération n'est prévue pour le moment. C'est une image qui a fait le tour de la planète et marqué l'histoire de l'art. La destruction d'une des toiles de Banksy lors d'une vente aux enchères, c'était il y a 3 ans. Le street artiste anglais, à la surprise générale, avait enclenché un mécanisme déchirant sa fille au ballon sous les yeux du monde entier. Et bien cette toile déchirée revient sur le marché de l'art. Sa propriétaire a décidé de s'en séparer et de la revendre beaucoup plus cher. À Londres, Maxence Peigné.
C'était le 5 octobre 2018. Une toile de Banksy était déchiquetée par son propre cadre lors d'une vente aux enchères à Londres. Elle venait d'être adjugée à plus d'un million d'euros, un an après avoir été élue l'œuvre d'art préférée des Britanniques. Les images ont fait le tour du monde et l'artiste avait ensuite publié une vidéo où il dévoilait le broyeur qu'il avait installé dans le tableau. Pour beaucoup de critiques, il s'agissait là d'un tour de maître. Et il semble que sa stratégie ait payé, car la jeune fille au ballon, rebaptisée « L'amour est dans la poubelle », aurait au minimum quadruplé sa valeur. Elle est désormais estimée entre 4 et 7 millions d'euros en vue de sa mise aux enchères le 14 octobre prochain. Sotheby's, qui organise la vente, l'a décrit comme l'œuvre la plus célèbre et la plus emblématique du marché de l'art, qui a toute sa place aux côtés de Picasso et de Rembrandt. Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Un mot de sport avec une nouvelle belle moisson aujourd'hui aux Paralympiques de Tokyo. L'or en double messieurs, en double en tennis, en ping-pong et en course sur la route. 51 médailles au total, dont 10 en or. Et puis ce soir, les champions olympiques français de volleyball font leur rentrée avec l'Euro de volley en Estonie, France-Slovaquie. C'est à 19h.
Voilà, tout à l'heure, à 18h15, on ira à Tokyo. On retrouvera Guillaume Batin. On termine, Sébastien, avec le choix du service culture pour ce week-end.
Ouais, ça s'appelle Catch. C'est le spectacle d'ouverture de la saison du Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie de Paris. Comme son nom l'indique, il s'agit de catch, mais de catch théâtral qui se joue sur un ring avec 10 comédiennes et comédiens qui incarnent des personnages de catch. Stéphane Capron a assisté aux dernières répétitions de cette pièce qui est l'une des plus originales de cette rentrée théâtrale.
Le spectacle utilise tous les codes du catch, avec sur scène son présentateur Gouailleur et dans la salle ses commentateurs télé.
Je vois bien que le match est désormais lancé.
Clément Poiré, le metteur en scène, a souhaité reconstituer l'ambiance des grandes soirées de catch.
Mais ce n'est pas un spectacle sur le catch, hein, c'est vraiment du catch théâtral, du ring art, des fois on dit pour rigoler. Il y a vraiment une forme qu'on découvre, avec des règles différentes que celles qu'on utilise d'habitude de théâtre, et donc c'est tout à fait passionnant.
Les textes abordent les questions d'environnement, du rapport femme-homme, du racisme, avec une grande liberté dans le ton dont se délecte la comédienne Clémence Boissé.
On s'est tout de suite dit qu'on ne pouvait pas être raisonnable, et qu'il fallait être forcément dans quelque chose d'extravagant, de trop, de monstrueux. Si on avait été sage, ça marcherait pas. Le spectateur, il dit, c'est qui, c'est fou? Comment ils peuvent amener cette parole-là? Non, on ne veut pas entendre ça, ce racisme ou la figure de la femme à cet endroit-là d'objet. Non. Alors que comme là, on le monte dans un truc avec le catch, ça nous permet de pouvoir être cruel.
Les comédiens ont pris les conseils de vrais catcheurs pour tenir leur rôle dans cette fête du théâtre, une sorte de grand carnaval qui célèbre le retour du spectacle dans les salles.
Catch de Clément Poiré, c'est au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie à Paris à partir du 9 septembre. Reportage en coulisses avec Stéphane Capron à retrouver demain en longueur à 6h52 dans le 6-9 du week-end.
Claire. C'est bien noté, merci Sébastien Legénie. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Des orages ce soir et demain.
Oui, les conditions instables qui ont touché la moitié sud aujourd'hui avec parfois des cumuls abondants, notamment du côté de Montpellier, vont persister jusqu'en soirée. De nombreuses averses localement orageuses circulent d'ailleurs entre la Nouvelle-Aquitaine, le pourtour méditerranéen, les Alpes et le Jura, débordant même vers le centre-Val de Loire et la Bourgogne. Demain, hormis quelques averses résiduelles entre le Poitou, le Massif central, le centre-Val de Loire, les Alpes du Nord, la journée commencera globalement dans le calme avec de belles éclaircies. Dans les plaines du sud-ouest et près de la Manche, il faudra attendre la dissipation des grisailles matinales pour retrouver le soleil. Et puis l'après-midi, des averses vont à nouveau se développer entre le nord de la Bretagne, la Normandie, le Massif central, les Alpes et le Jura, ainsi qu'en Corse. Ces averses seront localisées, mais parfois agrémentées de coups de tonnerre. Et comme ces averses seront peu mobiles, elles pourront apporter beaucoup d'eau en très peu de temps. Le Nord-Pas-de-Calais, le Grand Est, le sud de la Bretagne et le pourtour méditerranéen bénéficieront du soleil toute la journée.
Et des températures plutôt douces, Sébastien.
Oui, les maximales seront nettement au-dessus des valeurs de saison. On attend 24 degrés à Caen, Limoges et Biarritz, 25 degrés à Brest, Nantes et Lille, 26 degrés à Perpignan, Nancy et Nevers, 27 degrés à Mulhouse, Lyon, Agen, Nice ou encore Ajaccio. Et prévoyez aussi 28 degrés pour Paris, Toulouse et pour Marseille.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France.